Je vous invite à prendre vos Bibles pour les ouvrir dans le livre des Psaumes, au chapitre 123. Cantique des montées. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs se tournent vers la main de leur Seigneur, et les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce, car nous sommes par trop rassasiés de mépris. Notre âme est par trop rassasiée des moqueries, des satisfaits, du mépris des hautains. Alors, un esclave sans son maître est perdu, en fait. Il n'a aucune subsistance, il n'a aucune protection, il n'a aucune légitimité, il n'a aucun droit. Il n'a aucun espoir. Eh bien, nous sommes dans la même situation face à la parole de Dieu si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Dans la même situation. Et nous comptons donc sur notre Maître pour nous sauver, pour nous nourrir, pour nous protéger de toute mauvaise interprétation, pour nous donner, par adoption, accès au Père, pour remplir, en fait, d'espoir, nous remplir d'espoir par la révélation de Dieu qu'il a inspiré et que nous pouvons lire dans notre propre langue. Nous comptons sur l'Esprit de Dieu comme chaque dimanche pour être guidés dans sa parole. Et depuis le début de cette année 2016, nous avons commencé à méditer sur les cantiques qui accompagnent les pèlerins qui se rendent dans la Nouvelle Jérusalem. Nous avons commencé au psaume 120 qui, en fait, nous a permis de comprendre d'où vient le pèlerin et que le chemin n'est pas facile. Le psaume 121 nous a rassurés, encouragés, car nous avons appris qui était le secours du pèlerin. Le psaume 122 nous a fait regarder vers l'avant, car nous avons compris la joie que nous avions d'être bientôt dans cette Jérusalem céleste, et aussi dans les haltes que nous avons dans ce cheminement que nous avons sur cette terre que nous vivons dans l'Église. Alors, qu'est-ce que le cantique suivant nous réserve aujourd'hui? Est-ce une suite glorieuse avec un chant sur la félicité éternelle? Eh bien, ce n'est pas un hymne de triomphe que nous croisons ici au chapitre 123, mais il n'en est pas moins glorieux. Ce n'est pas un cantique qui nous parle de la victoire, du temps où tout est beau, où il n'y a pas de problème, non. Mais c'est un cantique qui nous parle de la grâce de Dieu, qui seul peut combler l'attente du pèlerin qui est méprisé et qui est encore en chemin. C'est pourquoi j'ai intitulé cette prédication « L'attente du pèlerin méprisé ». Et si vous regardez au dos des documents qui sont disponibles à l'entrée de l'église, vous verrez que chaque fois pour ces psaumes de montée, il y a le psaume en entier qui est écrit, mais qui est structuré. Donc il y a une structure qui est donnée. Et vous pouvez y voir qu'il y a en fait deux parties dans ce psaume de quatre versets. La première, c'est les versets 1 et 2 qui parlent des yeux, en fait. Qui regardent vers quoi et pourquoi? Bien, nous allons le voir. Et notre premier point, basé sur ces deux versets, sera simplement intitulé « Un regard ». Un regard. La deuxième partie du psaume, les versets 3 et 4, indique les paroles qui soutiennent ce regard. C'est une prière, si vous voulez, un appel, une demande que j'intitule « Une supplication ». Ce sera notre deuxième point. Mais avant d'entrer dans ces points, est-ce que vous vous souvenez du début du psaume 122? En fait, le début du psaume 122 résumait tout le psaume. Et il était dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alors, lorsque le pèlerin avait cette perspective en tête, la joie effectivement remplissait son cœur. Je pense que pour nous, c'est la même chose. Lorsque nous avons une perspective joyeuse devant nous, cette joie remplit nos cœurs. Mais durant son chemin, et quand la perspective finale est remplacée par le regard sur la méchanceté, sur les ennemis, sur ceux qui sont méprisants, sur son propre péché, eh bien, le pèlerin peut être découragé, abattu, même démotivé. Et les psaumes des montées qui suivent le psaume 122 sont justement des psaumes pour accompagner le pèlerin qui passe par différentes étapes, qui passe parfois par des creux de vagues, comme on dit, des moments délicats. Et le psaume 123 est donné par Dieu au pèlerin pour l'aider lorsque son péché l'assaille, que l'on se moque de lui et qu'il est méprisé. Or là, les enfants, il y a quelque chose à écrire. Alors je vais répéter la phrase, comme ça vous pouvez compléter. Le psaume 123 est donné par Dieu au pèlerin pour l'aider lorsque son péché l'assaille, que l'on se moque de lui et qu'il est méprisé. Et là, avant même de parler du problème, le psalmiste conduit le pèlerin vers la solution. Tout commence par un regard. Tout commence par un regard. C'est notre premier point d'ailleurs. J'aimerais relire avec vous les deux premiers versets pour que nous les ayons bien en tête. Donc, cantique des montées. Je lève mes yeux vers toi qui règnes dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs se tournent vers la main de leur Seigneur et les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Est-ce que vous avez déjà remarqué que nous avançons toujours là où nous regardons? Vous essayez cet après-midi de marcher dans une autre direction que votre regard. Par exemple, vous regardez à gauche et vous essayez de marcher à droite. Vous essayez. Il vous faudra un effort particulier que vous ne faites pas d'habitude pour faire cet exercice. Et lorsque vous le faites, vous ne le ferez pas longtemps. Parce qu'en fait, nous avançons vers ce que nous regardons. Ça, vous pouvez noter, les enfants. Nous avançons vers ce que nous regardons. Et le psalmiste sait qu'il en est de même sur notre chemin de pèlerin. C'est pourquoi il commence par dire « Je lève les yeux ». Et cette fois, il ne s'arrête pas vers les montagnes. Psaume 121, on a les montagnes là. Mais ici, « Je lève les yeux » et il va jusqu'à celui qui siège dans les cieux. Qui règne ou qui habite dans les cieux. C'est le terme qui est utilisé dans ce texte. Et Jésus nous dit dans Matthieu 5, 34 que le ciel, en fait, ça s'apparente au trône de Dieu. Donc quand on relève les yeux au ciel, eh bien cela nous fait penser à Dieu. On se tourne vers la majesté, vers ce Dieu roi. C'est pourquoi nous voyons Jésus lever les yeux au ciel lorsque, par exemple, il prie pour la multiplication des pains. Ou quand il prie avant de ressusciter Lazare, on le voit aussi lever les yeux au ciel. Ou encore avant de guérir un sourd-muet, lever les yeux au ciel, c'est s'adresser à celui qui y a placé son trône. C'est se présenter devant lui. C'est pour ça d'ailleurs que dans cette parabole du publicain qui arrive au temple, qui a tellement honte de son péché, il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Parce qu'il ne se sent pas digne de se présenter devant l'Éternel. Ou encore, vous pouvez réfléchir à toutes sortes de situations dans la Bible, on parle de cette notion de lever les yeux au ciel et on voit que l'Éternel est présent. On voit Étienne, par exemple, qui reçoit la sentence de mort, il fixe les yeux au ciel et il voit la gloire de Dieu. Vous savez, Jésus, quand il enseigne la prière à ses disciples, il ne les invite pas à commencer par prier en disant « Tout va mal, Seigneur, viens m'aider. » Non. Il leur dit « Notre Père qui es aux cieux ». C'est comme ça que commence. Et c'est comme ça que le psalmiste commence dans le psaume 123. Dieu veut nous faire diriger les regards vers lui en premier. Jésus veut que notre regard se tourne d'abord vers Dieu avant de lui parler de nos problèmes. Alors les enfants ont vu qu'il y a quelque chose à écrire là. Jésus veut que notre regard se tourne d'abord vers Dieu avant de lui parler de nos problèmes. En fait, Dieu veut que nous travaillions comme les GPS. Il faut... Vous savez comment fonctionne un GPS ou bien? vous avez été déjà utilisé. Mais en fait, un GPS, s'il ne recevait aucun signal du ciel, enfin de satellites là qui sont dans le ciel, il ne pourrait rien faire. Rien du tout. Rien du tout. Il faut d'abord qu'il reçoive ses données du ciel, des satellites, pour ensuite être capable de se situer dans le terrain où nous sommes, de nous diriger pour avancer dans notre chemin. Et suivant où nous nous trouvons, vous avez peut-être déjà fait cette expérience, d'aller dans un tunnel, et là le GPS ne peut plus vous dire où vous êtes. Mais quand le GPS peut lever les yeux au ciel, il reçoit ce dont il a besoin pour accomplir sa tâche, qui est de nous localiser, de nous guider. Et bien de même, pour vivre selon Dieu, pour recevoir sa grâce, pour trouver le bonheur, sortons de nos tunnels de péché, par la repentance et la foi, afin de lever les yeux vers celui qui règne dans les cieux, et nous recevrons ce dont nous avons besoin pour accomplir notre tâche, qui est premièrement, bien sûr, de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Mais comment le psalmiste nous invite-t-il à faire cela? Eh bien, il donne une illustration pour mieux comprendre. C'est le verset 2. Il se compare à un serviteur ou une servante. Et il compare Dieu à un seigneur ou un maître. Le serviteur tourne ses regards vers le maître, vers les mains de son maître, car c'est là qu'il va recevoir la direction dont il a besoin, la protection, la correction et la récompense. Et là, écoutez bien les enfants, ce regard exprime une dépendance totale. Quand il parle ici de ses serviteurs et de ses servantes qui regardent les mains de leur maître, c'est pour dire qu'ils sont totalement dépendants. Donc ce regard exprime une dépendance totale, le serviteur a besoin de son maître et il compte sur lui. Et là il y a une excellente nouvelle, c'est que notre maître est parfaitement bon. Il n'y a aucun mal en l'Éternel. Et donc il est bon de s'attendre à son œuvre. Tout ce que son bras puissant fera sera toujours pour notre bien. Tout ce que son bras puissant nous montrera sera toujours pour notre bien. Et notre bien, comme l'explique Romains 8, 28 et 29, c'est d'être rendu semblable au Fils de Dieu et ainsi atteindre la gloire éternelle. C'est ça notre bien, les amis. C'est vrai qu'en lisant ce texte de ces serviteurs qui regardent la main de leur maître, j'ai pensé à cette expression qui dit « obéir au doigt et à l'œil ». Vous avez peut-être déjà entendu parler de cela. Donc, ça veut dire obéir de façon totale, rapide, enfin. Et ce qui signifierait que le psalmiste veut nous faire comprendre que le pèlerin obéit parfaitement à l'Éternel. Alors, s'il est vrai que nous sommes appelés à obéir à notre maître divin, le texte, en fait, nous en donne une autre raison. Le texte ne nous parle pas ici d'obéissance, bien qu'on peut aussi bien sûr le comprendre, mais le texte ne nous parle pas ici d'obéissance. Il nous parle, et on le voit à la fin du verset 2, d'une attente de grâce. Les yeux sont tournés vers le Maître, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il fasse grâce, ou jusqu'à ce qu'il vienne au secours, jusqu'à ce qu'il ait pitié. Si le pèlerin peut tourner ses yeux vers l'Éternel, alors là les enfants vont écrire, hein, si le pèlerin peut tourner les yeux vers l'Éternel jusqu'à ce qu'il fasse grâce, c'est parce qu'il le fera réellement et il en est certain. Sinon, pourquoi tourner les yeux vers quelqu'un qui ne peut pas faire grâce? Vers quelqu'un qui n'a pas les moyens de le faire. Hein, si le pèlerin peut tourner les yeux vers l'Éternel jusqu'à ce qu'il fasse grâce, c'est parce qu'il le fera réellement et il en est certain. Pourquoi? Parce que Jésus est venu sur cette terre pour accomplir l'œuvre du salut qu'il a parfaitement terminé. Souvenez peut-être d'un mot, tetelestai, hein, souvenez peut-être. Tout est accompli, il a tout accompli. On pourrait dire le barrage du péché qui retenait la grâce de Dieu a sauté, il a été enlevé. Et c'est maintenant le fleuve de grâce qui coule du trône de la miséricorde. Et cette abondance de grâce devrait nous rendre encore plus confiants de tourner nos regards vers l'Éternel, vers celui qui siège dans les cieux, l'Éternel notre Dieu. Et là, quelques questions que j'aimerais vous poser. Es-tu saisi parfois par la crainte de la mort? Ce psaume nous dit, lève les yeux vers celui qui siège dans les cieux. Es-tu inquiet pour ton avenir? Lève les yeux vers celui qui siège dans les cieux. Es-tu conscient de un ou plusieurs péchés dans ta vie que tu dois laisser tomber? Lève les yeux vers celui qui règne dans les cieux. Te rends-tu compte que ta vie tourne autour de toi-même, de tes besoins, de ton confort? Lève les yeux vers celui qui règne dans les cieux. Car tu n'avanceras que dans la direction où tu regardes. Nous n'avançons que dans la direction où l'on regarde, les amis. Donc regardons dans la bonne direction. Et le pèlerin avance dans cette direction où il regarde, dans son but, dans sa vision, dans son but réel. Et le pèlerin qui chemine réellement vers Jérusalem, vers la Jérusalem céleste, tourne les yeux vers l'éternel Dieu jusqu'à ce qu'il fasse grâce. Et l'attente du pèlerin en levant les yeux vers l'éternel n'est par contre pas passive. Il parle. Son regard est accompagné de paroles. C'est la deuxième partie du psaume, notre deuxième point, que j'avais intitulé une supplication. Relisons les versets 3 et 4 ensemble. Fais-nous grâce, éternel, fais-nous grâce, car nous sommes par trop rassasiés de mépris. Notre âme est par trop rassasiée des moqueries, des satisfaits, du mépris, des hautains. Le pèlerin ne sait pas quand l'éternel lui fera grâce des griefs et épreuves qu'il est en train de vivre, mais il sait qu'il recevra cette grâce tôt ou tard. C'est certain. Et si le pèlerin est si sûr que l'Éternel accorde sa grâce, alors pourquoi le supplie-t-il, on pourrait dire. S'il est si sûr qu'il la donne, pourquoi alors il la lui demande? Eh bien simplement parce que Dieu dans sa parole nous dit « Demandez et vous recevrez ». Dieu nous dit que nous devons demander pour recevoir. Donc là vous avez cette information par exemple dans Jean 16, 24. Alors nous demandons et nous le faisons par le moyen que Jésus lui-même nous a appris. Quel est le moyen que Jésus nous a appris pour demander à Dieu sa grâce? La prière. La prière. Et le psalmiste insiste au verset 3. Nous voyons qu'il dit deux fois, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Pourquoi est-ce qu'il fait ainsi? C'est parce qu'il veut souligner cela. Vous savez, il n'y a pas de stabilo. Et surtout quand on transmet une parole, ben on ne peut pas la souligner comme ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour souligner? On répète. Il y a une répétition, ça peut être deux fois, trois fois, si on veut vraiment insister. Hein. Mais donc, la répétition veut souligner. Hein, pour indiquer qu'un mot, une phrase est importante, là, vous voyez les enfants, hein, où il faut écrire, vous prenez votre crayon et vous soulignez les mots choisis. Dans la Bible, c'est la répétition qui souligne. Et qu'est-ce qu'il répète ici? Fais-nous grâce! Mais pourquoi le pèlerin a-t-il tant besoin de grâce? Que veut dire faire grâce d'ailleurs? Que veut dire faire grâce? Faire grâce, si j'essaye de le résumer, on pourrait dire c'est accorder la libération comme une faveur imméritée. Pour essayer de le faire le plus court possible. Accorder une libération comme une faveur imméritée. Je vais prendre une petite illustration. Si un enfant à l'école vole dans le porte-monnaie de son prof, il mérite une punition et de rembourser l'argent. Évident. Mais voilà qu'il y a un copain de classe qui aime beaucoup cet enfant. Et il va vers le professeur, il lui donne le montant qui a été volé, et il prend la place de son ami pour la punition. Alors le professeur, s'il reçoit favorablement cet argent et cette demande de prendre la place de son copain, eh bien la libération de la dette et de la punition sera prononcé à l'enfant qui a volé, de façon tout à fait imméritée. C'est une faveur imméritée que le voleur reçoit. Dans ce cas, le prof a fait grâce. Eh bien, c'est exactement ce que le pèlerin demande à Dieu au verset 3 du psaume 123. Dans notre cas de pèlerin que nous vivons aujourd'hui en 2016, nous avons un copain de classe qui s'appelle Jésus-Christ, qui nous aime tant, qu'il a payé la dette du péché et pris la punition qui pesait sur nous. Et vous savez quoi? Sa demande a été acceptée par le divin juge. Et c'est ainsi que nous pouvons recevoir cette grâce imméritée. Hein, donc dans notre cas, de pèlerin, nous avons un copain de classe, Jésus-Christ, qui nous aime tant qu'il a payé la dette de notre péché et pris la punition qui pesait sur nous. Et sa demande a été acceptée par le divin juge. C'est pour cela que nous pouvons demander la grâce. En fait, si ce n'avait pas été pourvu, nous ne pourrions pas la demander. Mais ça a été pourvu! Pourquoi ne nous la demanderions pas? Pourquoi tant de fois nous ne demandons pas la grâce de Dieu alors qu'elle est pourvue? Sommes-nous conscients de notre besoin de grâce? Est-ce que vous dites, ok, je connais tout ça, c'est beau tout ce que Christ a fait, j'en ai besoin, théoriquement parlant, mais franchement, si vous regardez au fond de votre cœur, avez-vous vraiment besoin de cette grâce? Ou est-ce que nous sommes satisfaits de notre situation de péché? Sommes-nous si hautains que nous nous pensons quand même pas si mauvais, un peu meilleur que les autres peut-être? Est-ce que l'orgueil nous aveugle à ce point que notre propre justice nous empêche de voir notre besoin de grâce? Est-ce que ce matin, chacun peut dire dans son cœur, de toute son âme, « Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce !» Parce qu'il n'est pas possible de demander la grâce à Dieu si nous ne sommes pas conscients de notre péché. Vous avez vu les enfants, hein? Si nous ne sommes pas conscients de notre péché, ce n'est pas possible. Et cette conscience est donnée par le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, comme nous l'avons vu dans l'Évangile selon Jean. Et il utilise la parole pour cela. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de lever les regards vers Dieu en saisissant sa sainteté. Et avec ce regard vers la sainteté de Dieu, nous examiner. Et alors, sa lumière dévoilera notre noirceur. Et nous crierons, fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce. Une deuxième raison qui fait que nous ne pouvons pas demander grâce. Donc il n'est pas possible de demander à grâce si nous ne savons pas qu'il peut faire grâce. Vous avez vu les enfants, hein? Si on ne sait pas que Dieu peut faire grâce, pourquoi on irait lui demander? C'est ce qu'on appelle la foi qui est donnée par Dieu. À nouveau, Dieu utilise aussi la parole pour susciter la foi lorsque la merveilleuse œuvre de Christ est présentée, expliquée. Nous pouvons comprendre que Jésus a payé la dette, qu'il a pris la punition. Et plus encore. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Ben plus encore, il est prêt à nous donner même sa sainteté. Sa justice et sa sainteté, c'est extraordinaire. Donc si nous ne savons pas qu'il peut faire grâce, on n'ira pas lui demander. Et je suis sûr qu'ici, les enfants comprennent très bien qu'ils savent que si les parents n'ont pas de bonbons à leur donner, ils ne vont pas leur demander. On va demander quelque chose où l'on sait qu'on peut le recevoir. Et je prie que ce matin, chacun dans son cœur puisse dire, en comprenant son péché et l'œuvre de Christ, « Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce. » Bon, vous allez peut-être me dire, « D'accord. » Tout ce que tu viens de nous dire correspond au merveilleux évangile de Jésus-Christ, mais est-ce vraiment la raison qui pousse le pèlerin à demander grâce dans le psaume 123? Est-ce que tu as lu la suite du texte, versets 3 et 4? Parce que ces versets, en fait, donnent la raison de son cri, et la raison, en fait, c'est le mépris et la moquerie des autres. Selon les traductions, nous pouvons comprendre les insultes, les railleries, les sarcasmes qui sont tous difficiles à supporter, tellement que le psalmiste en est rassasié. C'est bon, j'en ai assez. Il est intéressant de constater que le pèlerin ne dit pas « Seigneur, change la société autour de moi » ou « Fais cesser le mépris des orgueilleux, les moqueries des hautains, les insultes des arrogants, les sarcasmes des propres justes, etc. » C'est pas ce qu'il demande ici. Notre pèlerin demande la grâce pour lui et son peuple. Le mal qu'il voit autour de lui le conduit à demander grâce pour son propre péché. Et j'en vois en fait deux raisons. La première, c'est que le mépris peut très bien avoir un lien avec son péché. Le mépris des autres vis-à-vis de nous peut avoir un lien avec notre propre péché. Le peuple d'Israël a été méprisé parce qu'il s'est détourné de l'Éternel. Nous en avons de nombreux exemples. On le voit d'ailleurs de manière très flagrante lorsqu'il a été exilé. Et réfléchissez juste un instant. Lorsque vous voyez quelqu'un pécher, qu'est-ce qui remplit votre cœur? Bien souvent, du mépris. Oh, c'est grave ce qu'il a fait, ou ce qu'elle a fait. Mérite bien sa déchéance, qu'on se moque de lui, ou que l'on parle derrière son dos, qu'on le déprécie. Oh, on ne va peut-être pas dire tout cela. Mais n'y a-t-il pas cette notion de mépris lorsque l'on voit quelqu'un pécher? Parce que même si ce n'est pas ce que nous désirons, notre cœur touché par le péché nous y pousse. C'est tellement plus confortable de se sentir supérieur, meilleur. Vous comprenez donc que celui qui a péché, et donc pour celui qui a péché, ce mépris est une moquerie des satisfaits qui devient difficile à entendre. Parce que ça rappelle toujours la faute. La faute est toujours rappelée. La faute est encore rappelée. Voilà pourquoi le pèlerin s'écrie « Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce !» Parce que lorsque la grâce est faite, il peut répondre aux mépris et aux moqueries en disant « Ma faute est effacée, mon péché est pardonné. Vous n'avez plus de raison de me mépriser et de vous moquer de moi. » Comprenez ? Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce. Et ensuite, si du mépris arrive, on peut répondre simplement, mais je suis pardonné, je suis lavé. Et la deuxième raison qui pousse le psalmiste à demander grâce pour son propre péché, et qui parle de ce mépris, de ces moqueries, c'est en fait que le péché des autres lui fait prendre conscience de son propre péché. Le péché des autres, hein, vous avez vu les enfants, lui fait prendre conscience du sien. Or, quand vous devenez conscient que vous pratiquez également le péché des autres devient un miroir qui reflète vos propres actions. Et bien souvent, il n'y a pas plus énervant que de voir quelqu'un faire la même faute que nous faisons. Combien souvent, dans les familles, un enfant reprend son frère ou sa sœur pour une faute qu'il commet lui-même souvent ? « Maman, il a pris le dernier morceau de chocolat sans le partager. » Alors qu'il le fait très souvent. « Papa, elle a dit du mal de moi. » Alors qu'il répand partout une mauvaise réputation sur sa sœur. Ou encore, « Il veut rien me prêter. » Alors qu'elle ne le fait pas non plus pour le punir. Ou encore, « Je ne compte pas pour elle, je suis personne. » Alors qu'il ne la regarde même pas quand il la croise dans la rue. Etc. Si vous voyez une faute chez votre frère ou votre sœur, avant de régler son problème, demandez-vous si vous ne faites pas de même. Si devant Dieu, le Dieu parfait, le Dieu saint, vous pouvez dire, moi je suis juste. Le pèlerin ici a un excellent réflexe, et c'est le psalmiste qui nous l'enseigne au début du psaume 123. Il lève les yeux vers l'Éternel, il se tourne vers lui et lui demande de faire grâce. Il n'a rien dit par rapport à toutes ces personnes-là qui commettent ces péchés. Il lève les yeux vers l'Éternel et il demande de lui faire grâce. Et lorsque nous regardons notre société qui se moque de Dieu, se détourne des valeurs données par le Tout-Puissant, qui méprise celui qui est plus faible, qui se moque de celui qui est pris en flagrant délit, qui utilise le sarcasme pour faire du mal tout en ne prenant pas la responsabilité de ses paroles, et tant d'autres choses qui rassasient notre âme, toutes ces choses devraient non pas nous amener à faire de même, c'est-à-dire de regarder la société de façon hautaine et orgueilleuse en la méprisant. En fait, nous ferions exactement la même chose que ce que nous dénonçons. Hein, donc là, les enfants, c'est-à-dire regarder la société de façon hautaine et orgueilleuse en la méprisant. Si on faisait ça, nous ferions exactement ce que nous lui reprochons. Toutes ces choses devrait plutôt nous amener à lever les yeux vers notre Dieu et dans notre humiliation de comprendre que nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas meilleurs. Comprenez ? Nous ne sommes pas meilleurs. Et quand on comprend que nous ne sommes pas meilleurs, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons demander la grâce à Dieu en voyant même autour de nous ce qui se passe. Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Fais-nous grâce, Éternel. Fais-nous grâce. Jésus a vécu les pires moqueries pour nous délivrer de nos pires péchés. Nous lisons dans Ésaïe, un texte que vous connaissez, Ésaïe 53, au verset 3, où il est dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voit la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. » Jésus a vécu ce mépris. Il a vécu totalement injustement un mépris, un abandon. Pourquoi ? Afin que nous puissions recevoir la grâce de Dieu. Afin que nous puissions recevoir la grâce de Dieu. Il est possible que nous soyons méprisés, c'est vrai, et que l'on se moque de nous à cause de notre foi. C'est possible. C'est possible que l'on soit méprisé à tort, hein, et qu'on se moque de nous à cause de notre foi. Et à ce moment, eh bien, nous saisissons un peu ce que Christ a enduré pour que l'Éternel nous fasse grâce. Rappelons-nous donc de tourner nos regards vers l'Éternel, car nous avançons toujours vers ce que nous regardons. Demandons la grâce qui est prête à être donnée, car tout a été payé. Elle est prête, cette grâce. Pourquoi est-ce que l'on s'entête parfois à ne pas demander la grâce ? Oh Seigneur, viens à notre secours. C'est tout ce que je peux dire. Et saisissons cette grâce qui est prête. Et si le mépris et la moquerie sont liés à notre foi, rappelons-nous la grâce que nous avons reçue et prions que l'Éternel déverse sa grâce de transformation sur ceux qui nous persécutent ou qui persécutent nos frères et sœurs. Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Fais-nous grâce, Éternel. Fais-nous grâce. Nous allons prier. Éternel, quel psaume encourageant qui ne nous montre pas une situation qui est facile. Parce que nous n'y vivons pas dans des situations faciles. Mais c'est un psaume qui guide notre regard. Et j'aimerais, Seigneur, te prier que nous puissions avoir ce regard guidé vers toi, afin que nous marchions dans ta direction. Seigneur, quelle grâce de pouvoir saisir cette précieuse vérité que si nous nous attendons à toi comme ces serviteurs qui s'attendent à leur maître, ce n'est pas en vain, parce que effectivement, tu as cette grâce dont nous avons besoin. Et non seulement tu l'as, mais tu la donnes avec générosité à tous ceux qui la demandent. Seigneur, nous te remercions pour cette merveilleuse nouvelle. J'aimerais te prier de nous aider à encore plus saisir ce que cela signifie, que nos cœurs soient touchés jusqu'au plus profond, que ce ne soit pas simplement une compréhension intellectuelle, une compréhension logique, mais une compréhension qui touche tout notre être. Et qu'ainsi nous puissions être remplis de reconnaissance et d'élan pour venir vers toi, implorer ta grâce et être reconnaissant que tu nous la donnes. Tu es un Dieu si bon et nous voulons te louer dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.